Flash. Très bel été, il est 8h. Et c'est Joël Espy qu'on retrouve pour le journal. Bonjour Joël.
Bonjour. Les viticulteurs et encaveurs vaudois n'ont plus que quelques jours pour annoncer au canton leur surface viticole affectée à la production de vin. Les vendanges sont très codifiées. Il existe en effet un règlement sur la limitation de la production et le contrôle officiel de la vendange. Les quantités de production maximale de raisins peuvent même changer d'une région à l'autre. À titre d'exemple, le Chablais pourra produire 50 grammes de plus par mètre carré que la région Lavaux pour les cépages blancs. Olivier Viret, responsable de la viticulture à la Direction générale de l'agriculture et de la viticulture à l'État de Vaud, il nous explique comment se décident ces quantités de production maximale.
On fait une analyse annuelle du marché du vin. C'est un mandat que l'État de Vaud a donné à l'Observatoire suisse du marché du vin qui est à l'école de Champvin et puis qui se base sur la consommation calculée dans les statistiques fédérales, la production des années précédentes, l'état des stocks. On va même jusqu'à des calculs d'élasticité des prix, c'est-à-dire la relation quantité et relation avec le prix entre les régions vaudoises et ça permet de faire une projection sur ces kilos de raisins à produire.
Olivier Viret répondait à Thierry Nicolet. À noter qu'il n'est par exemple pas possible de produire du vin de table sur la même parcelle qu'un vin de pays, mais un vin de pays peut être produit avec un vin AOC. Ceci témoigne des nombreuses règles auxquelles sont astreints les producteurs. Le tourisme est-il en train de prendre un tournant au bord du Léman? C'est ce que l'on pourrait affirmer en voyant se développer Dolce Riviera. Né de la pandémie, le concept reprend cette année. Il proposera des concerts à Villeneuve, Vevey, Montreux et la Tour de Paix. On trouvera également les fameux decks en bois qui permettent de prendre le soleil avec un accès facilité au Léman. Le tout en conservant la distanciation. La forme de Dolce Riviera est donc Covid-compatible avec des micro-événements disséminés dans de nombreux endroits. Une nouvelle vision à laquelle adhère Grégoire Chapuis. Il est directeur adjoint de Montreux-Vevey Tourisme.
Je dirais il y a déjà les mesures ou le cadre légal et puis qui a changé la donne. Et puis de l'autre côté, il y a aussi les nouvelles habitudes de consommation, de comportement des hôtes et également des locaux. Ça, c'est quelque chose. Et puis d'un point de vue tourisme, ça s'est aussi beaucoup recentré sur le comportement, la consommation locale, dans le sens où on est... Avant, on était touristes ailleurs que chez soi. Et puis, je pense que depuis les années Covid, on est également touristes chez soi. Et ça fait plaisir à voir aussi tous les habitants, les locaux, qui naviguent au sein de leur propre destination et qui redécouvrent.
Les différents concerts et animations de rue de Dolce Riviera seront gratuits. À Montreux, il faudra se doter d'un certificat Covid dans les jardins du Palace. Notons que les decks y seront accessibles dès lundi, démontage du Jazz Festival oblige. Après avoir atteint des niveaux records, la lente des crues engagées sur les lacs de Neuchâtel et de Bienne permet d'assouplir les restrictions. La baignade est à nouveau autorisée sur territoire neuchâtelois. La navigation reste en revanche proscrite, même sur le lac de Morat. La décision d'autoriser à nouveau la baignade se fonde sur des échantillons d'analyse microbiologique des eaux réalisées sur quelques plages. Aucune pollution notoire de l'eau du lac n'a été mise en évidence. Le constat n'exclut toutefois pas qu'à par endroit, l'eau soit localement souillée. Un danger réel de chute d'arbres subsiste également dans les zones arborisées inondées, en particulier lors d'épisodes venteux. L'accès à certaines rives reste donc dangereux. Où finissent, bon an, mal an, les quelques 60 000 voitures usagées mises hors service et qui disparaissent des statistiques suisses? Le conseiller national Vert Valaisan Christophe Cliva se pose la question. Il demande des comptes au conseil fédéral. Surtout, Christophe Cliva prône le recyclage des voitures usagées. Et pour favoriser ce dernier, plutôt que l'exportation illégale, il propose d'instaurer une taxe d'élimination à l'achat de la voiture. On écoute Christophe Cliva.
C'est une des voies que je propose, puisqu'en fait, j'ai déposé un postulat qui vise justement à demander à ce qu'on étudie la question, qu'on donne des bonnes conditions cadres pour qu'on puisse avoir une filière finalement du recyclage des véhicules automobiles en Suisse qui fonctionne bien, qui soit rentable et qui soit aussi bien au niveau écologique. Toutes les branches aujourd'hui, y compris la branche automobile, a bien compris qu'il y a un enjeu par rapport aux aspects écologiques et font des efforts. Et je vois pas vraiment pourquoi elles seraient contre cette proposition qui vise finalement à assurer une filière de recyclage qui soit propre, qui soit efficace, qui soit rentable en Suisse.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. Le postulat de Christophe Clivat doit encore, comme il se doit, être examiné par le plénum du Parlement fédéral. À l'étranger, le président équatorien Guillermo Lasso a décrété hier l'état d'urgence dans les prisons du pays afin de rétablir l'ordre après des émeutes. Celles-ci ont fait 22 morts et une soixantaine de blessés selon un dernier bilan officiel. Depuis la province de Cotopaxi, dans le centre du pays, où a été enregistrée la majorité des victimes, le président a déclaré vouloir entamer un processus de restructuration totale du système carcéral. Le chef de l'État a déjà remplacé le directeur de l'administration pénitentiaire par un militaire. Le sport en football, la saison de Challenge League reprendra ce week-end, mais sans Michael Perrier. Le 18 mai dernier, le milieu de terrain de Stade Lausanne-Ouchy était victime d'un arrêt cardiaque. Il a plongé dans le coma durant 4 jours. Le Valaisan de 32 ans s'est battu pour finalement s'en sortir sans aucune séquelle. Aujourd'hui, après la pose d'un défibrillateur sous-cutané, Michael Perrier se sent bien. Reste que jusqu'à début septembre, celui qui s'est établi au Bouvray a l'interdiction formelle d'effectuer la moindre activité physique. Ce délai passé, une batterie de tests établira s'il peut reprendre le sport de haut niveau. Si cela devait être le cas, une prolongation l'attend au stade Lausanne-Ouchy. Une nouvelle qui réjouit Michael Perrier.
Ça, c'est juste extraordinaire. Ça prouve la confiance qu'ils ont en moi. Et moi, voilà, je peux que remercier. Et je voulais juste dire que oui, c'est vrai que cette confiance est réciproque. Et j'espère de pouvoir rendre l'appareil ces prochaines semaines ou ces prochains mois, une fois que j'aurai le feu vert des docteurs.
Des propos recueillis par nos confrères d'Euron FM. La saison de Challenge League reprend demain pour Stade Lausanne-Ouchy, mais sans Michael Perrier. Les Vaudois reçoivent Winterthur dès 20h. Et aux Jeux Olympiques, le champion d'Europe 2014 du 400 mètres et Kariem Hussein ne disputera pas les JO de Tokyo. La chambre disciplinaire de Suisse Olympique a suspendu le Turgovien pour 9 mois, après que celui-ci a été testé positif à une substance interdite lors des championnats de Suisse à Lagenthal. Kariem Hussein, 32 ans, a annoncé dans un communiqué qu'il acceptait cette sanction après avoir vu son recours contre la suspension provisoire repoussée. Il explique avoir ingéré une pastille de glycoramine, un stimulant en vente libre, après la finale des championnats de Suisse.
Merci beaucoup Joël, on vous retrouve tout à l'heure à 8h30 pour le flash.